Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand il s'agit de parler tourisme, la maison de la radio à Paris est un excellent poste d'observation. Nos studios sont en effet à un jet de pierre de la Tour Eiffel. Hier, dans le bus 72, je me suis retrouvée à côté d'une famille espagnole en route vers la Dame de Fer. Et soudain, le petit garçon a demandé à sa maman « Ça sert à quoi de monter sur la Tour Eiffel ?» Dans le visage effondré de cette femme, j'ai vu les heures passer à réserver les billets d'avion, l'hôtel, le ticket coupe-fil. J'ai vu la foule qu'elle allait affronter sous le cagnard et les souvenirs hors de prix que les enfants allaient réclamer. Mais j'ai aussi vu le panorama à couper le souffle depuis le sommet de la Tour Eiffel. Bien sûr que la vue est sublime. Alors j'étais suspendue aux lèvres de la mère de famille et elle a finalement répondu « Et les dessins animés, ça sert à quelque chose peut-être ?» J'avoue que j'étais un peu déçue par sa réponse. Dites-moi ce que vous auriez répondu à ce petit garçon, chers auditeurs. Voilà qui nous conduit à notre sujet du jour. Qu'est-ce qu'un touriste ? Et pourquoi ce terme est-il aussi péjoratif ? Le touriste, c'est toujours l'autre, hein. On préfère le mot voyageur et ce qu'il porte en lui d'aventure, d'errance et de rencontre. Mais cette différence ne serait-elle pas un peu élitiste ? Se poser la question, c'est aussi interroger nos envies d'évasion et de dépaysement quand on part en vacances, notre soif d'authentique. Ça veut dire quoi exactement, authentique ? Vous nous écrivez sur l'application France Inter ou sur notre site internet. Les voyageurs, sont-ils des touristes comme les autres ? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Avec trois invités en direct, dont deux ont fait le tour du monde, l'une à moto, l'autre en famille. Je vous laisse imaginer ce qui est le plus encombrant. Bonjour Anne-France Daudeville.
Bonjour.
La vieille qui conduisait des motos, c'est vous.
C'est
le titre de votre livre aux éditions Payot. Vous avez parcouru le vaste monde sur des deux roues. Vous faites dans ce livre un récit passionnant de ces voyages. Alors à quoi ça sert selon vous de monter sur la Tour Eiffel ?
À se faire plaisir.
Ça suffit ?
Mais bien sûr. On oublie totalement que c'est du bonheur.
La question de l'utilité, à quoi ça sert ? Vous l'êtes posée ?
À quoi ça sert d'être heureuse ?
Vous la posez cette question dans vos voyages ? À quoi ça sert ?
Non, parce que je suis dedans. Oui. Quand on se demande à quoi ça sert, c'est qu'on est moitié dehors. Et quand on est en voyage, on est immergé. C'est une sensation absolument impressionnante d'être... Comment est-ce que je peux dire ? Je suis dans une autre réalité. Ça ne veut pas dire que je me perds, moi, au passage. Mais ça veut dire que sans arrêt, je suis réveillée par des choses qui me posent des tas de questions, parce que c'est des sensations, parce que j'essaye de voir. Et puis ça me rend heureuse. Tous ces espèces de petits chocs, ça me sent heureuse. C'est des caresses de paysage, c'est des caresses d'humanité, c'est fabuleux.
Premier raid à moto en 1972, hein, oui. Jusqu'à Isparan. On va raconter en détail tous vos très beaux voyages, Anne-France Daudeville. La voyageuse en famille, c'est Isabelle Morin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes la créatrice d'une gamme de carnets de voyage pour enfants. Les carnets Wonderworld, on va en parler bien sûr. Mais d'abord, répondez aussi à la question, s'il vous plaît. À quoi ça sert de monter sur la Tour Eiffel ?
Je pense qu'effectivement, à se faire plaisir, à en prendre plein la vue, à montrer aux enfants l'étendue de Paris, la beauté du paysage.
Malgré la foule. Malgré le prix, malgré la chaleur.
Malgré la foule, malgré le prix, malgré la chaleur. Effectivement, je pense que quand on vient d'Espagne à Paris, ce serait peut-être un peu dommage de ne pas monter sur la Dame de Fer. Oui, effectivement, oui.
Et cette émission est aussi un grand voyage entre Paris et Auxerre. Bonjour Jean-Didier Urbain.
Bonjour.
En duplex depuis les studios de France Bleu Auxerre, vous êtes anthropologue, spécialiste du voyage et du tourisme. Elle est intéressante cette question, à quoi ça sert ? On entend Isabelle Morin nous dire ce serait dommage de venir à Paris et de ne pas faire la Tour Eiffel. On est là face à une première injonction. Il y a des choses incontournables quand on voyage.
Oui, absolument. Il n'y a pas honte à emprunter des sentiers battus, parce que ça fait partie, je dirais, des premières lectures indispensables à la lecture de... Je sais pas, aller à New York sans aller à la Statue de la Liberté, c'est un peu stupide, non ? Quand on vient, quand un Américain, c'est un Américain, un anthropologue américain, d'ailleurs, qui a dit de ses concitoyens, quand un de mes concitoyens va en Europe, il dit « si je vais en Europe, je vais en France, si je vais en France, je vais à Paris, si je vais à Paris, je vais au Louvre, et si je vais au Louvre, je vais voir la Joconde ». Il y a des chaînes comme ça inévitables, et pourquoi les éviter ? Après, justement, évidemment, le reste devient d'autant plus intéressant qu'on sait déjà ce qu'il y a au centre de ce qu'on veut mettre devant les yeux de celui qui visite. Voilà. Pour ce qui est de la réponse pourquoi monter sur la Tour Eiffel, je pense que effectivement, Madame Dodeville a dit l'essentiel, c'est le plaisir. Et c'est pour ça sans doute que le touriste est si mal aimé, parce que c'est un voyageur pour le plaisir, sans alibi. Il a pas d'alibi, il est pas. C'est un voyageur nu, si vous voulez. Il a pas de bonne excuse.
Ah, on a coupé. Oh, oula, la liaison avec Auxerre est perdue. Bon, on va vous retrouver pendant la pause musicale. Hein. Je remercie en tout cas nos amis de France Bleu Auxerre pour la liaison. On va faire un saut de puce par la Réunion, tenez. Du Maloya matinée de rock, Olindé, c'était Transcabar sur France Inter. Le Maloya est une musique réunionnaise. Le débat de midi est préparé par Cyril Marchand, réalisé par Lola Costantini. C'est Jean-Baptiste Audibert qui signe la programmation musicale. Et on a mis notre sac à dos et notre plus belle casquette aujourd'hui.
C'est hyper cool de voyager. Il y a juste un truc qui me dérange quand je voyage, c'est que je deviens un touriste.
Le teint blafard venant, on ne sait d'où. De début juin à la fin du mois d'août.
Et moi j'aime pas être un touriste, d'accord? J'ai l'impression que le touriste c'est cette petite chose en chemise hawaïenne que personne ne respecte.
Les touristes.
Ils s'émerveillent de tout, ils prennent en photo des bus, des policiers, des portes.
Là c'est touristique. Hein. Moi qui cherche à rencontrer des Croates, bah je suis pas très bien parti. C'est vraiment touristique.
Mais t'es quoi toi? T'es pas un touriste? T'as un pantalon qui est transformable en short? Mais t'es pas un touriste!
Voyage, voyage!
C'est ceux qui disent « Waouh, moi j'ai fait l'Asie,
J'ai fait le Vietnam, j'ai fait le Thaïlande, j'ai fait le Japon. Puis là, en février, avec Muriel, on part au Laos construire des ponts pour des enfants qui doivent faire 60 000 km pour aller à l'école.
Tu vois, Patrick, ici, ils ont rien et en même temps, bah, ils ont tout.
Un petit concentré de voyage dans lequel on entendait notamment l'humoriste suisse Johan Provenzano. Alors parmi les tics de langage très agaçant autour du voyage, il y a effectivement cet emploi du verbe faire. J'ai fait la Sicile, j'ai fait le Machu Picchu. Comment ça t'as pas fait l'Islande? Ça vous agace Anne-France Dauteville?
Non, à mon âge, on s'agace plus pour les choses comme ça, ça me fait plutôt rire.
C'est vrai?
Ah oui, c'est comme s'il faisait du tricot, quoi. J'ai tricoté l'Afghanistan, ou c'est quoi cette histoire-là? J'ai fait l'Afghanistan. Bah non, je suis allée voir un pays.
Jean-Didier Urbain disait à l'instant, employait à l'instant le mot alibi pour faire une distinction entre touriste et voyageur. Le touriste, c'est celui qui n'a pas d'alibi pour voyager. Elle est intéressante, c'est intéressante cette différence. Vous vous sentez touriste, vous, Anne-France Dauteville, quand vous faites le tour du monde à moto?
Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. Mm-hmm. C'était les années 70, et donc on commençait à aller vers l'Orient, on faisait la route, oui, effectivement, on faisait la route, et c'était tellement nouveau, c'était tellement exceptionnel que il était de bon ton de cracher sur le touriste qui, lui, ne se donnait pas la peine de monter sur une moto, de faire du stop, etc. Il achetait du préfabriqué. Donc, c'était le voyage, c'est la rencontre. Oh, c'est un touriste, vous comprenez. Bon, c'est deux modes de consommation du monde qui sont différents.
Donc, on entend dans ce que vous dites, oui, qu'il y a une forme de snobisme dans cette manière d'employer le mot voyage plutôt que touriste. Et pourtant, vous êtes une voyageuse, pas une touriste.
Mais c'est-à-dire que, comme on n'était pas très nombreux, on avait un peu conscience d'être dans un petit morceau d'humanité qui était en train de naître. On était cette génération, sans qu'on le sache et sans qu'on le veuille. Par exemple, on s'est battu contre le racisme, simplement en rentrant. Moi, quand je rentrais, on me disait « Alors, on vous a violé ?» Bah, pourquoi ? Bah, parce que, vous vous rendez compte, l'Afghanistan toute seule.
Une femme qui voyage seule. Encore, oui, aujourd'hui, d'ailleurs, ça surprend beaucoup.
Oui, alors, on met les choses à l'envers. Il y a une jeune fille à Kaboul qui dit à son papa « Je vais toute seule à Paris. »« Oh, t'es folle, ils vont te violer !» Essayons de retourner les choses, vous voyez. Mais on n'avait pas encore fait ce saut. Simplement, on rentrait en disant, ben non, c'est des gens différents, c'est d'accord. Mais qu'est-ce que c'était génial, qu'est-ce qu'on a été gentils. Je raconte souvent que j'allais dans des restaurants, bon, je voyageais seule, il y avait la moto devant le restaurant, le casque sur un coin de la table, et au moment de payer, quelqu'un avait payé pour moi et était parti.
Sans rien dire?
Sans rien dire, par gentillesse, par admiration peut-être pour le fait que je sois seule. Peut-être que le fait que je vienne seule, ça prouve que j'ai confiance dans leur honneur. Et je me dis, bah, est-ce qu'on fait la même chose pour un Pakistanais qui est en voyage à Pouglézo? Non.
Jean-Didier Urbain, anthropologue du voyage en duplex depuis Auxerre. Elle est très occidentale, cette distinction entre tourisme et voyage?
Fatalement, parce que c'est l'Occident qui a inventé le tourisme. C'est très précis, ça vient d'Angleterre, le mot est anglais, emprunté au français tour, on a dérivé le mot touriste, et qui apparaît dès la fin du XVIIIe siècle. L'invention du tourisme est entièrement occidentale, donc ça ne peut pas être, je dirais, un préjugé qui est venu d'ailleurs, il vient de chez nous, effectivement. Bon, alors, il faut peut-être rappeler quand même que cette interprétation négative du touriste, elle est très très précoce, si vous voulez. Quand Stendhal écrit ses mémoires d'un touriste, il est fier de se dire touriste parce que ça fait anglais. Mais 15 ans plus tard, Flaubert a honte d'être un touriste en Grèce, parce que pour l'image du touriste, c'est déjà l'homme pressé, l'homme désargenté. Donc l'homme qui achète peu et qui voit peu parce qu'il ne fait que passer. Et ça, c'est lié, en fait, au premier développement du tourisme industriel, du tourisme marchand.
Tourisme de masse.
Oui, alors tourisme de masse, j'aime pas trop le terme, parce que en fait, c'est un tourisme nombreux. Est-ce que ça veut dire un tourisme populaire? Est-ce que ça veut dire un tourisme pour tous? Je n'aime pas trop l'expression. Moi, je trouve qu'elle détruit les nuances multiples et infinies qu'il y a dans les hommes qui voyagent, parce que chacun a son rêve, même quand on est un touriste lambda. Et je crois surtout qu'on a tort de vouloir réduire le touriste à cet aspect purement marchand. Parce que je veux dire que la réalité du tourisme, c'est pas seulement les agents de voyage et les vitrines des agences de voyage. Vous avez des touristes qui se débrouillent tout seuls, qui inventent des voyages. Il y a des touriste créatif. Et puis personnellement, moi j'ai pris ça comme une grande claque à une époque. C'est l'ethnologue et journaliste, écrivain voyageur Jacques Meunier qui disait « Après tout, un ethnologue n'est-il pas qu'un touriste subventionné ?» Hein, après tout, parce que dans le mot tourisme, il y a le mot tour. On fait un tour pour des raisons diverses. Le plaisir est toujours à l'horizon quand même, mais on veut avoir justement l'alibi, découvrir les peuples étrangers, voir les choses autrement, parcourir le monde d'une manière spécifique. Mais on n'en est pas moins touriste, quoi. Simplement, on s'est arrêté sur une image avec la chemise hawaïenne, le Bob Ricard sur la tête, hein, et le gros zoom sur le ventre. C'est pas ça le touriste quand même. C'est quelqu'un qui a, faut pas se faire d'illusions, qu'a quand même inventé largement un type de voyage mal vécu parce que précisément on y cherche le plaisir.
Alors, on entend bien toute votre tendresse pour les touristes, Jean-Didier Urbain. Vous écrivez sur le sujet depuis plus de 30 ans. Hein. On se souvient de L'idiot du voyage, paru dans les années 90. Je donne la parole à Isabelle Morin, qui crée des carnets de voyage pour les enfants. On peut quand même dire un peu de mal du tourisme de masse, ou ça vous dérange aussi?
Non, ça me dérangeait, je suis pas là pour juger.
Quel est votre regard, vous, sur les touristes?
Le regard sur le tourisme de masse, en tout cas, je l'ai eu il y a 3 semaines, j'étais à Venise. Mm-hmm.
Et alors, effectivement. Voilà. Une cité lacustre noyée sous les touristes.
Voilà, donc, j'étais à Venise puisque nous avons un carnet de voyage pour enfants pour Venise. Et effectivement, quand on est à Piazza San Marco et qu'on voit l'énormissime bateau de croisière qui arrive, c'est vrai que c'est une image ultra choquante. Effectivement, le tourisme de masse, pour moi, c'est ça. C'est des gens qui vont venir à Venise avec leur énorme bateau et qui vont voir Venise comme ça, de manière très, très rapide et sans vraiment prendre en considération, on va dire, tous les enjeux qu'il y a derrière. Qui sont maintenant à la portée de tous.
Venise, d'ailleurs, où un couple d'Allemands a récemment écopé d'une amende de 950 € pour avoir réchauffé un café sur un petit réchaud au pied du pont Rialto. Ils ont été expulsés, selon Tenante, de Venise. Ça, c'est les conséquences des ravages du tourisme de masse, vous diriez, Isabelle Morin?
Oui, disons qu'il y a un moment où on ne peut pas, en tant qu'étranger, en tant que voyageur ou en tant que touriste, c'est là toute la question, faire comme s'approprier un endroit qui n'est pas le sien. Moi, quand j'ai voyagé toute seule ou avec mes enfants, j'ai toujours respecté ça, la culture de l'autre. J'ai toujours essayé d'apprendre 2-3 mots du pays pour au moins saluer les gens, leur dire merci, leur dire au revoir. Et en aucun cas, évidemment, je me serais approprié le pont Rialto pour faire réchauffer.
Jean-Didier Urbain, qu'est-ce que vous avez pensé de cette info, vous? 950 € d'amende pour un café sur un réchaud?
C'est-à-dire que c'est la façon de réguler les choses, la façon la plus pitoyable de réguler les choses. Je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper de cible. Mm-hmm. Je veux dire, si ces phénomènes se produisent, c'est parce qu'on les rend possibles. Et il ne faut pas confondre le tourisme et le touriste. Le touriste, c'est un homme qui a envie de découvrir quelque chose. Le tourisme, c'est une puissance industrielle qui se met au service de découvertes formatées par d'autres. Et donc, je crois que, par exemple, le touriste qui est à Venise n'apprécie pas le touriste qui le regarde depuis son gros bateau. Un touriste intramuros à Venise ne peut pas être amalgamé à celui qui est sur le Grandi Navi, comme disent les Grandi Navi, comme disent les Vénitiens, parce que lui, il parcourt la ville à pied, etc. Maintenant, il y a un problème qui est actuel, très contemporain, c'est le problème de la régulation et ce décalage entre les habitants et les politiques du tourisme des édiles. Si vous voulez, si Venise est submergée de touristes, c'est parce qu'il n'y a aucun dispositif de régulation par les politiques. Il n'y a pas de politique.
D'ailleurs, la ville vient de mettre en place un péage pour entrer dans la ville.
Mais comme exactement comme on va faire pour gravir le Mont Blanc ou même l'Everest, l'île de Pâques est aussi obligée de se réguler, et ça je pense qu'on ne pourra pas faire autrement dans l'avenir. Mais effectivement, quand il y a trop de monde, ça veut dire qu'on n'a pas quelque part mis une vanne, mais comme on le fait déjà dans les musées, si vous voulez, on réserve sa place pour qu'il n'y ait pas trop de monde, qu'il n'y ait pas une hyperdensité. Je pense que cette formule-là doit s'appliquer forcément au voyage.
Nous recevons quelques réponses d'auditrices et d'auditeurs sur cette question, hein. À quoi ça sert de grimper sur la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, ça sert à rien d'y monter, écrit cette auditrice. C'est pour ça qu'il faut le faire, apprendre à faire des choses pour rien. Et Bertrand d'ajouter, monter sur la Tour Eiffel, c'est aussi voir de près ce qu'est la serrurerie originelle, comprendre l'audace de la construction de cette merveille. C'est la référence pour bien des travailleurs du fer dont je suis, précise-t-il. Beaucoup d'auditeurs nous ont écrit pour faire une distinction entre la destination et le chemin, entre le voyage et le tourisme. Ce serait ça une forme de définition, une France d'autre ville. Ce qui compte pour les touristes, c'est la destination. Ce qui compte pour les voyageurs, c'est le chemin à parcourir. Vous êtes d'accord avec ça ?
Non, pas tout à fait. Non, il me semble qu'il y a une relation avec le temps. Mm-hmm. quand je pars en voyage, j'ai la vie ouverte devant moi. J'ai pas de limite. La limite, y a un moment où je rentre parce que j'ai plus d'argent. Il y a un moment où je rentre parce qu'il va y avoir de la neige sur la route et que je sais pas conduire une moto sous la neige. Mais vous voyez, c'est... Tandis que quand je faisais des reportages de tourisme, j'en ai fait beaucoup, beaucoup quand j'étais journaliste pigiste, c'était toujours dans le cadre d'un temps qui était compté avec un début, une fin. Et comment est-ce que je remplis ce temps de la façon la plus...
efficace.
Créative aussi. Où est-ce que je peux les envoyer qui ne soient pas dans des évidences? Donc aller chercher quels sont les endroits un peu impressionnants, un peu magiques, et où on est réellement dans la région que l'on visite. Et je crois qu'au fond, quand on rentre de voyage, moi je partais toujours à la recherche de paysages et je rentrais avec des histoires d'humains. Quand on rentre d'un voyage touristique, on rentre avec des musées dans la tête, bien souvent. Plus en tous les cas.
Je vous entendais réagir tout à l'heure quand on parlait de la Statue de la Liberté. Vous n'y êtes pas allé, vous, en visitant New York, Anne-France, d'autres villes ?
Non.
Non ?
Non.
Ça,
non.
Ça manque ? C'est une case à cocher, au moins ?
Non, mais je ne suis pas vraiment dans les clous, je crois. Hein.
Daniel nous écrit ceci par courriel. Il serait temps de réhabiliter le voyage plutôt que la destination. Le voyage étant entendu comme le temps passé à se rendre d'un point A à un point B, le temps ouvert à tous les possibles, toutes les rencontres, les transitions nécessaires au passage d'un univers à un autre. Et en plus, c'est écologique, précise-t-il. Isabelle Morin, emmener ses enfants en voyage, est-ce bien raisonnable ?
Oui, c'est tout à fait raisonnable, tout à fait raisonnable. Et je rebondis, effectivement, c'est vrai que la destination, on y va pour voir des paysages. Et en fait, il faut absolument, ce qui est important, effectivement, c'est le trajet. Qu'est-ce qui va se passer sur ce trajet? Et ça, c'est ça l'aventure. Et c'est les rencontres humaines. À Oman, la dernière fois à Oman, finalement, c'est parce qu'on n'était pas alors on est touristes, évidemment, mais c'est parce qu'on n'était pas
pressés.
Nous ne sommes pas allés dans un autocar, autobus avec un groupe que nous sommes allés, nous, des cinq, qui nous est arrivé, mille aventures, et qu'on a fait une rencontre.
Vous et vos trois enfants.
Voilà, c'est ça. Et qu'on a fait une rencontre absolument, absolument génialissime. Donc il faut se laisser quand même effectivement ce plaisir-là de la rencontre avec l'autre et de la rencontre avec l'autre culture aussi. C'est pour ça que dans mes carnets de voyage, effectivement, j'ai laissé une part qui est le trajet. Bah, raconte le trajet, parce que sur le trajet, même si on va dans les Alpes, maman a vomi, le chien... voilà, il y a toujours des anecdotes. Je me suis retrouvée sur une aire d'autoroute avec quelqu'un de mon village, alors qu'on était à 800 mètres tous les deux. C'est arrivé. C'est des choses qui sont des anecdotes et... ça fait partie du voyage, le trajet, bien sûr.
Je suis en train de feuilleter le carnet Wonderworld de New York, et ça commence par des cases à cocher, hein, les choses à ne pas rater à New York, s'offrir une pause à Central Park, prendre en photo un authentique taxi new-yorkais, faire du shopping dans Soho. Vous mesurez tout ce que ça porte d'injonction au voyage ?
Oui, alors effectivement, moi je me mets dans la place d'une famille qui arrive de France et qui a dépensé des sous, dépensé de l'argent, hein, pour qui a pris des jours de vacances, qui a dépensé de l'argent pour aller à New York. Bah, finalement, là, je leur offre 18 suggestions d'activités qui ne sont pas, vous l'avez remarqué, pas coûteuse, hein, c'est prendre une photo, ça coûte rien, et qui vont finalement, qui font partie, hein, qui font partie des incontournables de New York. Je suis désolée de le dire, mais ça fait partie de l'incontournable de New York, comme se faire une photo devant la Tour Eiffel, ou se faire une photo devant l'Opéra de Sydney quand on est à Sydney. Ce serait quand même dommage, en tant que parent, en tout cas après mes enfants feront ce qu'ils veulent, mais en tant que parent, ce serait dommage de payer un billet d'avion à mes enfants pour aller à Sydney et pas faire une photo devant l'Opéra. Enfin,
bien sûr.
À côté, ça n'empêche pas à Sydney d'aller voir les Blue Mountains. Ou finalement, nous, nos meilleurs souvenirs de Sydney, c'est les Blue Mountains plus que l'Opéra de Sydney. Mais c'eût été dommage, en tout cas.
Qu'ont retenu vos enfants de vos voyages, Isabelle Morin ?
Alors, est-ce qu'ils ont retenu quelque chose de manière effectivement consciente ?
Vous avez l'impression qu'en tout cas, ils n'ont pas les mêmes souvenirs que vous, que leurs moments les plus marquants, peut-être, ne sont pas les mêmes que les vôtres ?
Oui, je pense effectivement. Ils ont leurs moments à eux, à leur échelle à eux, et heureusement. À la fin de chaque voyage, on fait un top 10 des meilleurs souvenirs, et on s'amuse toujours à regarder effectivement, est-ce qu'on a, entre papa, maman et les trois enfants, est-ce qu'on a des choses qui concordent ? Et c'est très rigolo, parce que le top 1, le premier, en fait, n'est jamais le même.
Ouais. Ils ont quel âge ?
Anne-France, d'autres villes.
Ils ont quel âge, vos
Alors, enfants ? Alors, quand on a fait le tour du monde, ils avaient 9 ans et 7 ans. Et là, quand on est allé au Maroc ou à Oman, on l'a fait donc avec une petite fille en plus. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ils ont 16 ans, 13 ans et 6 ans. Et c'est rigolo, comme moi, ce qui me touche, c'est un coucher de soleil. Non, alors la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'était voir le ciel illuminé. Toutes les étoiles, c'était absolument magique, magique. Pour mon mari, c'était de voir un kaori. Pour mon fils, c'était
un kaori.
Un kaori, ce sont les arbres qui ont 2000 ans dans le sud, dans le nord de l'île du Nord, pas très loin d'Auckland. Pour mon fils, c'était danser une haka. Enfin, c'était vraiment tout le monde. C'est normal. C'est ça qui est la richesse du voyage
en
famille.
Alors, je vous cite un extrait du livre d'Anne-France Daudeville, hein, la vieille qui voyageait,
qui conduisait des motos.
Pardonnez-moi. L'enfer en voyage, c'est les autres. Écrivez-vous. Le voyage seul, c'est ce qui a du sens pour vous. Hein. Voyager accompagné, vous ne le concevez même pas.
Non. Non, non, mon premier voyage, j'ai appris deux choses. C'était un rallye, donc on est parti à 105, on est arrivé à 92 ou 95, je ne sais plus, à Ispahan, 11 en Afghanistan, 5 au Pakistan. J'ai appris deux choses. Un, je suis faite pour voyager seule. Mm-hmm. Et deux, il faut pouvoir relever sa moto toute seule. Car imaginez-vous que je me suis cassée la gueule en haut du désert iranien, sur la tôle ondulée, il y avait une plaque de sable. Cette moto était comme un tracteur, j'étais obligée de m'asseoir dessus, d'attendre que quelqu'un vienne. Un camion est arrivé au bout de 20 minutes, je l'ai arrêté. Par geste, j'ai demandé qu'on soulève la moto. Trois types avec des turbans costauds hein, sont descendus du camion. Ils ont vu que j'étais une femme, ils ont poussé un hurlement, ils ont ressauté dans le camion, ils sont partis.
Sans blague.
Ah, ils étaient terrifiés.
C'est vrai que vous faites très peur, hein, je peux le confirmer aujourd'hui. Hein.
Bah, oui, alors c'est embêtant parce que dans le désert, il fait très froid la nuit. J'aurais pu effectivement mourir gelée en Iran dans le désert. Non, mais bon.
Ça s'est bien terminé, rassurez-nous.
Oui, je suis là.
Ouais. CQFD. Jean-Didier Urbain, anthropologue des voyages. C'est paraissant, évidemment, hein, cette envie de voyager tout seul.
Non, c'est pas récent. C'est plutôt le mobile qui est relativement récent. Bon, les grands ancêtres, on citera toujours Montaigne, hein, bien sûr, disant que le voyage est un livre suffisant. Parcourir le monde, c'est apprendre. C'est vrai. Je pensais à ces distinctions entre trajet et destination. Je crois qu'il n'y a pas à privilégier l'un ou l'autre. Hein. Je veux dire que ça fait partie de l'esthétique du voyage. Certains préféreront de trajet, d'autres la destination, en fonction des moments, des circonstances, des projets. Je veux dire qu'il y a un tourisme du lieu, il y a un tourisme du territoire. Un territoire, ça se traverse. Un lieu, ça s'atteint. C'est pas la même jouissance, c'est pas le même plaisir. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi le tourisme du désert. Un désert, ça se traverse. Mmh. Un pèlerin, lui, il veut atteindre. Donc, je veux dire, ces deux paradigmes ou ces deux modèles du voyage ne sont pas exclusifs, hein, ne s'opposent pas. Ils se complètent et on peut... Il y avait un très beau film de Luis Buñuel qui s'appelait La Voie lactée, qui montrait que le trajet était aussi important que la destination. Bon, voilà, il n'y a pas d'injonction. Il faut faire attention parce que sous prétexte très souvent de ne pas vouloir être injonctif, on le devient à nouveau. Et on propose de nouvelles injonctions et de nouvelles normes. Donc, se rappeler par exemple aussi que le voyage, c'est pas forcément seulement découvrir. Il y a des voyages, c'est une grande tradition du voyage. C'est pas seulement découvrir le monde, c'est aussi un moyen pour oublier le monde.
Ne rien faire.
Pas forcément ne rien faire, mais sortir du monde. Le voyage de l'ermite qui va dans un lieu où il n'y a pas d'homme, c'est une façon d'oublier le monde. Enfin, le saint, Saint François dans ses montagnes, il va dans les montagnes pour oublier le monde parce qu'il se rapproche de Dieu en s'éloignant des hommes. C'est aussi un vieux modèle, très vieux modèle de voyage qui existe aussi aujourd'hui dans le tourisme. Il y a un tourisme mystique hein, qui existe, qui cherche des lieux justement où les hommes, si je puis dire, n'ont jamais mis le pied. Il y a toujours ce syndrome, je dirais moi, Armstrong, quoi, de l'homme, le premier homme sur la Lune. On veut aller dans des endroits où l'homme n'a jamais été pour se sentir seul et oublier le monde d'où l'on vient. C'est ça aussi, hein, le voyage, c'est ce détour hors de soi, hors des siens, hors de la société. Et ça sert aussi à ça, le voyage. Hein. Un peu comme la Tour Eiffel, c'est montrer qu'il n'y a pas qu'un seul regard à porter sur le monde. On peut le voir de haut, on peut le voir de bas, on peut le voir sous le sol, au ras du sol, etc., etc.
Et puisque vous nous parlez du premier pas sur la Lune, on fait un grand voyage à travers l'univers avec les Beatles.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are
drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David. Oh, nothing's gonna change. Suns, it calls me on and on across the universe.
Invités se racontent leurs aventures en studio en écoutant les Beatles. Les voyageurs sont-ils des touristes comme les autres? C'est notre question du jour.
Le débat de midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Avec une question d'auditeur qui nous parvient par mail. Isabelle Morin dit qu'elle était à Venise avec les gros paquebots pour ses carnets de voyage pour enfants. Est-ce qu'elle en parle de cette facette-là du tourisme de masse dans ses fameux carnets?
Non, très peu, Morin. Honnêtement. Je pense que mes carnets ne laissent pas vraiment la place pour répondre à cette question. Par contre, ce que j'ai fait dans les carnets de voyage, qui sont les carnets souvenirs de mon voyage en France et le carnet souvenir de mon voyage dans le monde, parce que en France, on peut très bien voyager en allant au lac d'Annecy ou aller visiter les hospices de Beaune. Il n'y a pas du tout besoin d'aller en Nouvelle-Zélande ou en Indonésie pour voyager. J'ai laissé une double page qui sont colle ici tes petits souvenirs. Et en fait, c'est ça peut être la feuille d'un arbre, ça peut être un petit peu de sable, et ça c'est quand même la nature, ce côté quand même proche de la nature, c'est quand même un point important. Donc effectivement, je ne parle pas dans les carnets de voyage qui sont d'ailleurs destinés plutôt aux enfants entre 6 et 12 ans, donc je ne pense pas que le débat se fasse...
Anne-France d'Hauteville, vous rapportez des souvenirs de vos voyages à moto?
J'ai acheté des chaussures au marché aux voleurs de La Paz.
En Bolivie?
En Bolivie, oui. En Afghanistan, j'avais acheté des petites bagues, des petites choses comme ça. On ne peut pas mettre grand-chose sur une moto, vous savez.
C'est compliqué.
Puis j'étais fauchée, en général. Quand on part sans savoir quand on va rentrer, on a intérêt à ne pas dépenser son argent, parce qu'on ne sait jamais, si je me retrouve en panne, je fais comment.
Vous racontez dans votre livre La vieille qui conduisait des motos, comment a démarré ce grand voyage. Vous étiez publicitaire au départ, Anne-France Deauville.
Ah oui.
Vous travaillez notamment pour les agences de voyage.
Non, pas du tout. Des agences de publicité.
Oui, mais une publicité pour du voyage au Maroc, je crois.
Oui, ça se passait au mois d'août. Je prenais toujours mes vacances en septembre. En août, presque toute l'agence était en vacances. Et le directeur de création me dit, on a le budget du tourisme marocain qui déboule. On donne ta chance. Tu nous tombes une campagne. Alors je me suis inventé un pays où j'aurais adoré...
Vous n'aviez pas mis les pieds.
Ah non, je connaissais pas du tout. Donc j'ai fait des annonces qui disaient, comme par exemple, au Maroc, les roses fleurissent dans les jardins des hôtels, même des petits hôtels. Au Maroc, quand vous demandez votre chemin, on vous l'indique pas, on vous guide. Donc je m'étais fait un pays de beauté, d'attention à l'autre, de gentillesse.
Complètement fantasmé en l'occurrence.
Mais totalement. Et je suis allée vendre la campagne à Casablanca. Et après, je suis descendue, j'ai pris quelques jours, je suis descendue à Marrakech. Et le pays que j'avais inventé, il était là. Et c'était absolument magique. Et des amis de Marrakech m'ont emmenée camper. Pour la première fois de ma vie, j'ai dormi en plein air. C'était extraordinaire, dans la vallée de la Tessaout, à côté d'El Azilal. Et puis le matin, un monsieur est venu nous voir. Il avait une grande robe. Et il nous a accueillis avec une dignité formidable. Mais il parlait très bien français. Et je lui ai demandé pourquoi il parlait français. Il m'a dit qu'il avait été pendant 35 ans ouvrier chez Renault. Et là, je suis tombée par terre en me disant, mais ces gens-là qu'on traite de bougnoules, ça colle pas, ça va pas, c'est pas possible. Et là, brusquement, le monde a éclaté pour moi. Il tournait pas comme je voulais.
Et l'envie de voyage, elle vient de là.
Oui. Et vous voyez, finalement, je crois que la différence entre voyage et tourisme, et peut-être que vous avez éprouvé ça, vous,
Isabelle
c'est
Morin.
Que oui. Quand je suis touriste, je peux me contenter des musées, des bons restaurants et du joli paysage. Quand on est en voyage, la clé, c'est tu es qui, toi ? C'est l'autre en face.
Aller vers l'autre, tout à fait, ça fait partie du...
Alors qu'on peut faire un merveilleux voyage de tourisme en se remplissant la tête de sensations, de bonheur, de gourmandise, de tout ce qu'on veut. Mais tu es qui, toi ? On peut s'en passer. Parce que peut-être que le temps est plus réduit et peut-être qu'on ne part pas pour la même idée, tout simplement. Moi, chaque fois que je suis partie, je vous dis, chercher des paysages magnifiques, je suis rentrée avec des histoires d'humains.
Alors justement, on doit souvent vous demander si c'est pas dangereux d'être une femme qui voyage seule, Anne-France Deauville. Est-ce que vous avez des conseils pour les femmes qui font la même chose que vous ?
Vous savez, le monde dans
lequel
moi...
Vous avez été en Afghanistan, au Pakistan, en Inde...
Oui, j'ai adoré tout ça. Mais le monde est différent. Moi, c'était il y a 45 ans. Mon premier livre est sorti en 73. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? On n'est plus les mêmes singes. On a la guerre dans les trois quarts du monde. Il y a de la peur maintenant, il y avait de la peur avec raison, il y a des gens qui... 30 ans de guerre.
Donc qu'est-ce que vous dites, il ne faut plus voyager seul ?
Non, c'est pas ça. C'est que si vous allez vous balader en Afghanistan par exemple, ces gens ont eu 30 ans de guerre, ils n'ont pas retrouvé ce qu'ils sont réellement. Ils sont encore malades de la guerre, donc n'allez pas en Afghanistan. En revanche, moi je ne pouvais pas aller dans le bloc soviétique qui était fermé, et j'ai rencontré deux garçons qui sont allés jusqu'à Vladivostok en scooter. Donc, il y a des espaces où on peut se promener, mais moi, je ne les connais pas.
Vous écrivez qu'il faut faire passer la curiosité après la prudence, mais avant la peur. Voilà à peu près où se situe le curseur.
Oui, parce qu'il y a des règles du jeu qui ne sont pas les mêmes dans d'autres sociétés. Donc, on peut faire de très, très bonne foi des gaffes immenses. Moi, quand je suis allée au Japon, je crois que j'ai accumulé mais toutes les gaffes qu'une occidentale peut faire dans un pays où j'ai rien compris, mais rien. Mais ça a été absolument calamiteux. Vous avez été au Japon ?
Non. Est-il aujourd'hui raisonnable et responsable de se payer ce luxe aussi régulièrement que nous le faisons ? Nous écrit Barbara par courriel. Je m'adresse à l'anthropologue du voyage, Jean-Didier Urbain. Voyageur ou touriste, écrit Barbara, peu importe, les conséquences néfastes, qu'elles soient sociales, économiques ou écologiques, sont les mêmes. Voilà une voix qu'on entend de plus en plus.
Oui, je sais. Bon, moi, personnellement, j'ai toujours été très réticent concernant cette critique parce que on fait un petit peu du touriste, un bouc émissaire dans cette affaire. J'en parlais tout à l'heure, le tourisme par contre est une industrie qui manque de bornes, qui manque de frontières, qui manque de régulation. Ça c'est incontestable et je crois pas qu'on fasse beaucoup d'efforts en ce sens-là. Mais pour autant, moi je trouve absolument essentiel que le tourisme perdure, parce que c'est la plus grande conquête qu'on ait pu faire d'un point de vue social et humanitaire, c'est-à-dire que c'est la libre circulation des hommes. Moi, c'est quelque chose contre laquelle je ne pourrais jamais m'opposer. Moi, j'adhérerais toujours au fait que les hommes puissent désormais voyager. Cette mobilité est essentielle, ou autrement, on va revenir à une société qui assignera les hommes à résidence, telle que l'a décrit Michel Foucault à partir du XVIIe siècle. Et ça, je suis contre. C'est le grand risque qu'on court aujourd'hui, sous couvert d'écologie, de ne pas laisser les hommes circuler librement. Il faut sans doute mettre des bornes, mettre des limites, ne pas laisser des lieux être submergés. On a parlé de Venise, il y en a beaucoup d'autres. On pourrait parler d'Amsterdam avec une politique de la ville qui devient délirante. Des habitants qui ne peuvent plus vivre dans leur propre ville parce que on a des Anglais qui arrivent en horde, se saouler, se droguer, etc., et qui vomissent partout dans la ville. Pour 800 000 habitants, 15 millions de visiteurs, ça fait beaucoup. Là, je suis d'accord. Mais néanmoins, il y a une liberté à préserver avant même la circulation des biens, parce que ça, on fait pas grand-chose contre les tankers qui polluent les océans, qui se transportent que des biens. Mais par contre, on va faire beaucoup de choses contre la circulation, la libre circulation des hommes. Voilà, c'est mon cri
du cœur.
Mais c'est pour ça que je dis qu'on peut pas penser les choses en ces termes. On doit certainement réguler les circulations, protéger aussi bien les environnements humains que les environnements naturels, mais on ne doit certainement pas passer par la solution radicale qui est le confinement ou l'assignation à résidence. Des hommes. Et je pense à ce proverbe islandais que citait Jacques Meunier, un enfant qui ne sort pas de son village devient vite un idiot. Voilà. Et je pense que si les hommes voyageaient plus, ça irait certainement mieux. Maintenant, tout dépend de la façon dont on les fait voyager.
Alors ça, c'est presque un slogan publicitaire pour vos carnets Wonderworld, Isabelle Morin.
Merci beaucoup. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire,
vous voyagez moins, vous avez réduit votre pratique de l'avion ou pas du tout?
Oui, on a enfin, on n'est pas non plus des voyageurs.
La préoccupation écologique vous occupe-t-elle?
Non, honnêtement, non, pas tant que ça. Je pense qu'effectivement, je fais à côté, moi, dans la vie de tous les jours, d'autres gestes qui comptent aussi. Par exemple, je n'utilise jamais ma voiture. Mais pour moi, franchement, un enfant qui voyage, c'est un adulte averti. C'est un adulte ouvert sur le monde. C'est un adulte qui va être tolérant. C'est un adulte qui va être ouvert à l'autre, à la différence. Enfin, c'est pour moi, c'est juste une condition sine qua non pour être un adulte heureux et dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je pense que c'est.
J'aimerais vous soumettre ce message qui est aussi un cri du cœur d'une auditrice qui nous est parvenue sur Twitter. Aujourd'hui, dit-elle, j'ai l'impression que le seul sujet de conversation dans les soirées, c'est de parler de ses voyages et de faire un concours de la plus belle paillote en Thaïlande. J'avoue, j'en ai marre de cette Instagrammation des conversations, référence à Instagram, le réseau social où on publie des photos. Surtout que ça nous fait oublier nos privilèges d'occidentaux, dit-elle, d'avoir le bon passeport qui nous permet de voyager partout sans nous poser de questions. Et elle ajoute, ça me rappelle un covoiturage avec un couple qui rentrée d'Égypte et qui a dit « Les Égyptiens sont des gens adorables ». Cette phrase, mais quel enfer, dit-elle. Vous comprenez l'agacement de cette auditrice, Isabelle Morin?
Tout à fait. Et moi-même, je suis agacée. Je ne prône absolument pas un modèle. Sur ma page Instagram, il n'y a absolument pas de photos comme ça, complètement extraordinaires. Et c'est vrai qu'on voit tout le temps ces mêmes plages philippines, magnifiques. Voilà. C'est pas un modèle en soi, quoi. Moi, c'est quelque chose, effectivement, qui m'a plu de le faire avec mes enfants. Et encore, on n'est pas des consommateurs de voyages à tout va, pas du tout. On choisit nos voyages et on en fait un tous les deux ans, donc faut pas non plus exagérer. Mais je suis d'accord. Il doit y avoir d'autres sujets de conversation.
Jean-Didier Urbain, ça c'est un sujet d'étude pour vous, l'Instagrammation des conversations.
Oui, tout à fait. Si vous voulez, à une époque, ça empruntait d'autres supports. Je veux dire, mais toute la littérature de l'impression de voyage, ça relève un petit peu de cette logique comme ça de nouvelles brèves de flash de l'ailleurs, etc.
Les Égyptiens sont des gens adorables, cette phrase exaspère cette auditrice, vous comprenez?
Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce jugement général, enfermé dans une qualité finalement très liée à la soumission, au fond, toute une population, toute une culture, toute une société, c'est insupportable, ça c'est vrai.
Alors on veut encore des anecdotes de voyage de Anne-France d'Hauteville. J'aimerais que vous nous racontiez la fois où vous êtes devenu un bleu géant sur pattes après un accident en Australie, je crois.
Quand j'étais... Alors, ça se passait comme ça, c'est-à-dire qu'une marque de moto me prêtait la machine, comme ils font aux journalistes qui font des essais, sauf que moi, bah, l'essai, il pouvait durer 2 mois, 7 mois pour l'Amérique du Sud.
Pas facile comme métier. Hein.
Ça va, si moi j'ai réussi à le faire, n'importe quel andouille peut le faire, vous savez, parce que je conduis vraiment très mal. Je ne suis pas du tout athlétique. Et donc, en échange, évidemment, quand on me prête une moto, bah, en cours de route, je passe à la radio, je passe et je fais la promotion de la machine si je trouve qu'elle est bonne. Donc, j'arrive aux 1000 premiers kilomètres à Brisbane, sur la côte est de l'Australie. C'est une grosse BM, les vieux flats, j'adore ces vieilles motos. Et il y a la révision des 1000. Et le mécanicien me dit, ah ben, si vous pouvez attendre, ABC TV va vous filmer. Bon, ben, ça fait partie du métier, donc j'attends une journée. Arrivent les journalistes, 3, la réalisatrice, preneur de son et caméraman dans une voiture. Nous dînons ensemble et je leur dis, ben, écoutez, ça tombe bien. Le premier voyage, tout le monde a parié que je tomberais à 500 km. Ils ont tous perdu, je suis tombée à 750 km. Deuxième voyage, tour du monde, je parie moi que je tombe à 1000 km. À 995, je me fais flanquer en l'air par un imbécile. Donc si je fais une courbe à 1200-1300, on est bon. Ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fumé, cette espèce de folle. Je voyais leur visage se décomposer. Premier jour, on fait le tournage, tout va très bien. Et puis le deuxième jour, ben oui, j'étais autour de 1300, 1400. Et il commence à pleuvoir.
Aïe.
Et je me dis que ben, la combinaison de cuir mouillée, elle va mettre des plombes à sécher. Donc, je vais mettre une combinaison imperméable. Je me range sur le bord de la route. Je cherche le point mort. La moto était encore un peu neuve. Donc, j'avais la tête dans les cadrans. J'entends un bruit terrible de frein. Je me dis, tiens, il y a deux corneaux qui se rentrent dedans. Et la seconde d'après, je passe par-dessus le guidon. Je fais un vol plané. J'atterris sur la tête, etc., etc. Et c'était la voiture de la télé qui m'avait écrasée.
Voilà, c'était les cadreurs qui vous ont écrasée. Et aujourd'hui, à 75 ans, vous faites encore de la moto, Anne-France?
Non, je ne peux plus.
Ah non?
Non, non. J'ai...
C'est très récent alors, cet arrêt de la moto?
Ça s'est passé quand j'ai eu 72 ans. Pardon, 69 ans. Donc, 75, ça fait combien? Ça fait 7 ans, c'est ça?
Ça fait 6 ans.
6 ans, oui, j'ai jamais su compter. Je me suis fait emplafonner par un type avec un cerveau d'huître en voiture. J'étais en voiture.
Un cerveau d'huître.
Oui, encore, c'est pas gentil pour les huîtres. Donc. Et on a coupé ma voiture en deux pour m'en sortir. Et au moment où je pensais que je pouvais reprendre la moto, j'ai une polyarthrite qui s'est installée et ça y est.
Mais vous voyagez en nous les racontant, toutes ces aventures dans
vos... Vous savez, quand on vieillit, si on regarde ce qu'on n'a plus, on saute par la fenêtre. Si on regarde ce qu'on a, on dit merci à tout le monde.
Te conjuro que te dejo prendado. Encima de mi techo olvido los pecados. Y que todos los santos tienen su pasado. Yo te bendigo si te tengo al lado. Su nombre en el coro ya no está clavado. Manos en el aire si te lo han rasgado. Que yo la vi un asalto empuñado. Hola, yo aquí.
Elle s'appelle Rosalía, une jeune espagnole qui a enflammé le festival We Love Green à Paris le mois dernier. Mes invités ont parlé voyage et tourisme. J'ai à présent une dernière question à leur poser.
Le débat de midi sur France Inter.
Question rituelle dans cette émission, sur quoi avez-vous changé d'avis? Je me tourne vers la motarde d'abord, Anne-France Daudeville.
Surtout.
Ah, surtout tout le temps?
Oui.
Ah bah voilà, bah c'est fait.
Bah oui.
Rien à préciser?
Non, parce que je passe mon temps à apprendre des choses, à rencontrer des gens, ils me bousculent la tête, ils me mettent de nouvelles idées, ils me mettent. Je rencontre une dame qui a voyagé différemment de moi avec des enfants, qui pas d'enfants, qui est des chats, bah, brusquement j'ai. Plein d'idées qui me tournent dans la tête et je vais sortir d'ici, je serai plus la même que quand j'étais rentrée.
Alors,
merci, c'est un cadeau que vous me faites.
Merci, mais de rien.
Isabelle Morin, sur quoi avez-vous changé d'avis?
Oh, je pense que maman de trois enfants change d'avis beaucoup sous l'éducation, même si j'essaie de garder
des principes. Maintenant,
voilà,
j'ai des enfants.
Exactement, je pense que c'est ça. Et de toute façon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Sur quoi en particulier, en termes d'éducation?
Oh non, bah tu vas pas fumer, tu vas pas boire d'alcool, c'est absolument interdit. Mais en fait, il est interdit d'interdire. Donc, tu vas prendre ta première biture, puis tu vas te dire en fait, ah ouais. Non, en fait, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, bon, bah, c'est des principes.
Jean-Didier Urbain, en duplex d'Auxerre. Sur quoi avez-vous changé d'avis?
Oh, sur beaucoup de choses, moi aussi. Hein. À commencer, vous l'avez deviné, sur le touriste. Moi, au début, je ne voulais pas en parler. Et après, je me suis pris d'affection pour ce personnage. Et je l'ai démultiplié en différentes catégories et espèces. Mais enfin, sur plein de choses, sur des choses plus quotidiennes. Par exemple, quand j'ai découvert que les chats sont les prédateurs les plus redoutables de la planète, je me suis dit qu'au niveau de l'écologie, on pourrait peut-être réfléchir sur d'autres choses. Moi, qu'adorer
d'ailleurs,
les
l'Australie
chats,
travaille à en stériliser une grande partie, hein, parce que c'est une espèce invasive. Elle est, voilà, elle est outrée, Anne-France Daudeville, je vous le dis, parce que vous la voyez pas, mais elle est scandalisée. Continuez.
Non, mais je suis tombé par hasard sur ces rapports dans des journaux, etc. Mmh. Quand on apprend que le chat est responsable de la disparition de 63 espèces, ça fait réfléchir. Mmh. Enfin, qu'on a 14,5 millions de chats domestiques en France et qui tuent chacun entre 5 et 10 petits animaux utiles, comme le lézard ou la grenouille, etc. par an. On s'interroge, quoi. Je veux dire que parfois, le mal écologique n'est pas forcément seulement là où on le pense. Et ça me fait réfléchir sur la relativité de ces choses, ce qui est le propre de... Bon, voilà, il y a plein d'autres choses aussi. Hein.
C'est déjà pas mal sur les chats. Merci beaucoup à vous trois. Isabelle Morin, je renvoie à votre site internet un Wonder World pour trouver vos carnets de voyages pour enfants.
.fr,
bien sûr. La vieille qui conduisait des motos d'Anne-France Daudeville est à lire aux éditions Payot. Également chez Payot, d'ailleurs, les ouvrages de Jean-Didier Urbain. Une histoire érotique du voyage et votre essai sur les voyages ratés. Grand merci à tous les trois. Et très belle journée. Le débat de midi revient demain et on parlera de listes, les listes de courses, les listes de trucs à faire, les listes de cadeaux pour Noël. Est-ce qu'on se rend malade avec toutes ces listes? Et s'il fallait rayer les listes?